Partie 1 du chapitre 5 du livre 10 de Notre-Dame de Paris. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Notre-Dame de Paris par Victor Hugo. Livre 10, chapitre 5. Le retrait au 10 César, Monsieur Louis de France. Le lecteur n'a peut-être pas oublié qu'un moment avant d'apercevoir la bande nocturne des truands, Quasimodo, inspectant Paris du haut de son clocher, n'y voyait plus briller qu'une lumière, laquelle étoilait une vitre à l'étage le plus élevé d'un haut et sombre édifice, à côté de la porte Saint-Antoine. Cet édifice, c'était la Bastille. Cette étoile, c'était la chandelle de Louis XI. Le roi Louis XI était en effet à Paris depuis 2 jours. Il devait repartir le surlendemain pour sa citadelle de Montilles-les-Tours. Il ne faisait jamais que de rares et courtes apparitions dans sa bonne ville de Paris, n'y sentant pas autour de lui assez de trappes, de gibets et d'archers écossais. Il était venu ce jour-là coucher à la Bastille. La grande chambre de 5 toises carrées qu'il avait au Louvre, avec cheminée chargée de 12 grosses bêtes et des 13 grands prophètes, et son grand lit de 11 pieds sur 12, lui agréait peu. Il se perdait dans toutes ses grandeurs. Ce roi bon bourgeois aimait mieux la Bastille, avec une chambrette et une couchette, et puis la Bastille était plus forte que le Louvre. Cette chambrette, que le roi s'était réservée dans la fameuse prison d'État, était encore assez vaste et occupait l'étage le plus élevé d'une tourelle engagée dans le donjon. C'était un réduit de forme ronde, tapissé de nattes en paille luisante, plafonné à poutres rehaussées de fleurs de lys d'étain doré avec les entrevous de couleurs, lambrissé à riches boiseries semées de rosettes d'étain blanc et peintes de beaux verts gais, fait d'orpins et de fleurs fines. Il n'y avait qu'une fenêtre, une longue ogive treillissée de fils d'archal et de barreaux de fer, d'ailleurs obscurcie de belles vitres coloriées aux armes du roi et de la reine, dont le panneau revenait à 22 sols. Il n'y avait qu'une entrée, une porte moderne, à cintre surbaissé, garnie d'une tapisserie en dedans, et, au dehors, d'un de ces porches de bois d'Irlande, frêle édifice de menuiserie, curieusement ouvré, qu'on voyait encore en quantité de vieux logis il y a 150 ans. « Quoiqu'il défigure et embarrasse les lieux, dit Sauval avec désespoir, nos vieillards pourtant ne s'en veulent point défaire et les conservent en dépit d'un chacun. » On ne trouvait dans cette chambre rien de ce qui meublait les appartements ordinaires, ni banc, ni tréteau, ni forme, ni escabelle commune en forme de caisse, ni belle escabelle soutenue de piliers de contre-piliers à 4 sols la pièce. On n'y voyait qu'une chaise pliante à bras, fort magnifique. Le bois en était peint de rose sur fond rouge, le siège de cordouan vermeil, garni de longues franges de soie et piqué de 1000 clous d'or. La solitude de cette chaise faisait voir qu'une seule personne avait droit de s'asseoir dans la chambre. À côté de la chaise et tout près de la fenêtre, il y avait une table recouverte d'un tapis à figure d'oiseau. Sur cette table, un galmar taché d'encre, quelques parchemins, quelques plumes et un hanap d'argent ciselé. Un peu plus loin, un chauffe-doux, un prie-dieu, de velours cramoisi, relevé de bossettes d'or. Enfin, au fond, un simple lit de damas jaune et incarnat, sans clinquant ni passement, les franges sans façon. C'est ce lit, fameux pour avoir porté le sommeil ou l'insomnie de Louis XI, qu'on pouvait encore contempler, il y a 200 ans, chez un conseiller d'État, où il a été vu par la vieille Madame Pilou, célèbre dans le Cyrus sous le nom d'Aricidie et de la morale vivante. Telle était la chambre qu'on appelait le retrait où dit César Monsieur Louis de France. Au moment où nous y avons introduit le lecteur, ce retrait était fort obscur. Le couvre-feu était sonné depuis 1 heure. Il faisait nuit. Et il n'y avait qu'une vacillante chandelle de cire posée sur la table pour éclairer 5 personnages diversement groupés dans la chambre. Le premier sur lequel tombait la lumière était un seigneur superbement vêtu, d'un haut-de-chausses et d'un juste au corps écarlate rayé d'argent, et d'une casaque à mahoîtres de drap d'or à dessin noir. Ce splendide costume, où se jouait la lumière, semblait glacé de flamme à tous ses plis. L'homme qui le portait avait sur la poitrine ses armoiries brodées de vives couleurs, un chevron accompagné en pointe d'un daim passant. L'écusson était accosté à droite d'un rameau d'olivier, à gauche d'une corne de daim. Cet homme portait à sa ceinture une riche dague dont la poignée de vermeil était ciselée en forme de cimier et surmontée d'une couronne comtale. Il avait l'air mauvais, la mine fière et la tête haute. Au premier coup d'œil, on voyait sur son visage l'arrogance, au second, la ruse. Il se tenait tête nue, une longue pancarte à la main, derrière la chaise à bras sur laquelle était assis, le corps disgracieusement plié en deux, les genoux chevauchant l'un sur l'autre, le coude sur la table, un personnage fort mal accoutré. Qu'on se figure en effet sur l'opulent cuir de cordoue, deux rotules cagneuses, deux cuisses maigres pauvrement habillées d'un tricot de laine noire, un torse enveloppé d'un surtout de futaine avec une fourrure dont on ne voyait moins de poils que de cuir. Enfin, pour couronner un vieux chapeau gras du plus méchant drap noir bordé d'un cordon circulaire de figurines de plomb. Voilà, avec une sale calotte qui laissait à peine passer un cheveu tout ce qu'on distinguait du personnage assis. Il tenait sa tête tellement courbée sur sa poitrine qu'on n'apercevait rien de son visage recouvert d'ombre, si ce n'est le bout de son nez sur lequel tombait un rayon de lumière et qui devait être long. À la maigreur de sa main ridée, on devinait un vieillard. C'était Louis XI. À quelque distance derrière eux causaient à voix basse deux hommes vêtus à la coupe flamande, qui n'étaient pas assez perdus dans l'ombre pour que quelqu'un de ceux qui avaient assisté à la représentation de Mystère de Gringoire n'eût pu reconnaître en eux deux des principaux envoyés flamands, Guillaume Rang, le sagace pensionnaire de Gand, et Jacques Coppenole, le populaire chaussetier. On se souvient que ces deux hommes étaient mêlés à la politique secrète de Louis XI. Enfin, tout au fond, près de la porte, se tenait debout dans l'obscurité, immobile comme une statue, un vigoureux homme à membres trapus, à harnois militaire, à casaque armoriée, dont la face carrée, percée d'yeux à fleur de tête, fendue d'une immense bouche, dérobant ses oreilles sous deux larges abat-vents de cheveux plats, sans front, tenait à la fois du chien et du tigre. Tous étaient découverts, excepté le roi. Le seigneur qui était auprès du roi lui faisait lecture d'une espèce de long mémoire que sa majesté semblait écouter avec attention. Les deux flamands chuchotaient. « Crois Dieu, grommelait Coppenole, je suis l'âtre d'être debout. Est-ce qu'il n'y a pas de chaise ici ?» Rhin répondait par un geste négatif, accompagné d'un sourire discret. Crois Dieu, reprenait Coppenole, tout malheureux d'être obligé de baisser ainsi la voix, l'envie me demande de m'asseoir à terre, jambes croisées, en chaussetier, comme je fais dans ma boutique. Gardez-vous-en bien, maître Jacques. Ouais, maître Guillaume, ici l'on ne peut donc être que sur les pieds ou sur les genoux, dira. En ce moment-là, la voix du roi s'éleva. Ils se turent. 50 sols les robes de nos valets et 12 livres les manteaux des clercs de notre couronne. C'est cela. Versez l'or à tonnes. Êtes-vous fou, Olivier? En parlant ainsi, le vieillard avait levé la tête. On voyait reluire à son cou les coquilles d'or du collier de Saint-Michel. La chandelle éclairait en plein son profil décharné et morose. Il arracha le papier des mains de l'autre. « Vous nous ruinez !» cria-t-elle en promenant ses yeux creux sur le cahier. « Qu'est-ce que tout cela? Qu'avons-nous besoin d'une si prodigieuse maison? Deux chapelains à raison de 10 livres par mois chacun et un clerc de chapelle à 100 sols? Un valet de chambre à 90 livres par an? 4 écuyers de cuisine à 620 livres par an chacun? Un asteur, un potager, un saucier, un queue, un sommelier d'armure, 2 valets de sommier à raison de 10 livres par mois chaque, 2 galopins de cuisine à 8 livres, un palefrenier et ses 2 aides à 24 livres par mois, un porteur, un pâtissier, un boulanger, 2 charretiers, chacun 60 livres par an, et le maréchal des forges, 620 livres, et le maître de la chambre de nos deniers, 1200 livres, et le contrôleur 500, que sais-je, moi? C'est une furie. Les gages de nos domestiques mettent la France au pillage. Tous les mugots du Louvre fondront à un tel feu de dépenses. Nous y vendrons nos vaisselles. Et l'an prochain, si Dieu et Notre-Dame, ici il souleva son chapeau, nous prêtent vie, nous boirons nos tisanes dans un pot d'étain. En disant cela, il jetait un coup d'œil sur le hanap d'argent qui étincela sur la table. Il toussa et poursuivit. Maître Olivier, les princes qui règnent aux grandes seigneuries comme rois et empereurs ne doivent pas laisser engendrer la somptuosité en leur maison, car de là ce feu court par la province. Donc, maître Olivier, tiens-toi ceci pour dit. Notre dépense augmente tous les ans. La chose nous déplaît. Comment, parce que Dieu! Jusqu'en 69, elle n'a point passé 36 000 livres. En 80, elle a atteint 43 619 livres. J'ai le chiffre en tête. En 81, 66 680 livres. Et cette année, par la foi de mon corps, elle atteindra 80 000 livres. Doublé en 4 ans. Monstrueux! Il s'arrêta, essoufflé. Puis il reprit avec emportement. « Je ne vois autour de moi que gens qui s'engraissent de ma maigreur. Vous me sucez des écus par tous les pores. » Tous gardaient le silence. C'était une de ces colères qu'on laisse aller. Il continua. « C'est comme cette requête en latin de la seigneurie de France, pour que nous ayons à rétablir ce qu'ils appellent les grandes charges de la couronne. Charges, en effet. Charges qui écrasent. Ah, messieurs, vous dites que nous ne sommes pas un roi pour régner d'Apifero nullo, Bouticulare io nullo. » Note, sans écuyer tranchant ni bouteiller. Fin de note. Nous vous le ferons voir, parce que Dieu, si nous ne sommes pas un roi. Ici, il sourit dans le sentiment de sa puissance. Sa mauvaise humeur s'en adoucit. Il se tourna vers les Flamands. Voyez-vous, compère Guillaume, le grand panetier, le grand bouteillier, le grand chambellan, le grand sénéchal ne valent pas le moindre valet. Retenez ceci, compère Coppenole. Ils ne servent à rien. À se tenir ainsi inutiles autour du roi, ils me font l'effet des 4 évangélistes qui environnent le cadran de la grande horloge du palais, et que Philippe Brille vient de remettre à neuf. Ils sont dorés, mais ils ne marquent pas l'heure, et l'aiguille peut se passer d'eux. Il demeura un moment pensif, et ajouta en hochant sa vieille tête. « Oh, par Notre-Dame, je ne suis pas Philippe Brille, et je ne redorerai pas les grands vassaux. Je suis de l'avis du roi Édouard, sauver le peuple et tuer les seigneurs. » Continue Olivier. Le personnage qu'il désignait par ce nom reprit le cahier de ses mains et se remit à lire à haute voix. À Adam Tenon, commis à la garde des sceaux de la prévôté de Paris, pour l'argent, façon et gravure des 10 sceaux qui ont été faits neufs, pour ce que les autres précédents, pour leur antiquité et caduqueté, ne pouvaient plus bonnement servir, 12 livres parisis. À Guillaume Frère, la somme de 4 livres 4 sols parisis, pour ses peines et salaires d'avoir nourri et alimenté les colombes des 2 colombiers de l'hôtel, les Tournelles, durant les mois de janvier, février et mars de cette année, et pour ce a donné 7 sextiers d'orge. À un cordelier, pour confession d'un criminel, 4 sols parisis. Le roi écoutait en silence. De temps en temps, il toussait. Alors il portait le hanap à ses lèvres et buvait une gorgée en faisant une grimace. En cette année, ont été faits par ordonnance de justice à son de trompe par les carrefours de Paris 56 cris. Compte à régler. Pour avoir fouillé et cherché en certains endroits, tant dans Paris qu'ailleurs, de la finance qu'on disait y avoir été cachée, mais rien n'y a été trouvé, 45 livres parisis. Enterrer un écu pour déterrer un sou, dit le roi. Pour avoir mis à point, à l'hôtel des Tournelles, 6 panneaux de verre blanc à l'endroit où est la cage de fer, 13 sols. Pour avoir fait et livré, par le commandement du roi, le jour des monstres, 4 écussons aux armes du dit seigneur, enchapesés de chapeaux de rose tout alentour, 6 livres. Pour 2 manches neuves au vieil pourpoint du roi, 20 sols. pour une boîte de graisse à graisser les bottes du roi, 15 deniers. Une étable faite de neuf pour loger les pourceaux noirs du roi, 30 livres parisis. Plusieurs cloisons, planches et trappes faites pour enfermer les lions d'Emprès Saint-Paul, 22 livres. Voilà des bêtes qui sont chères, dit Louis XI. N'importe, c'est une belle magnificence de roi. Il y a un grand lion roux que j'aime pour ses gentillesses. L'avez-vous vu, maître Guillaume? Il faut que les princes aident ces animaux mirifiques. À nous autres rois, nos chiens doivent être des lions et nos chats des tigres. Le grand va aux couronnes. Du temps des païens de Jupiter, quand le peuple offrait aux églises 100 bœufs et 100 brebis, les empereurs donnaient 100 lions et 100 aigles. Cela était farouche et fort beau. Les rois de France ont toujours eu de ces rugissements autour de leur trône. Néanmoins, on me rendra cette justice que j'y dépense encore moins d'argent qu'eux, et que j'ai une plus grande modestie de lion, d'ours, d'éléphant et de léopard. Allez, maître Olivier, nous voulions dire cela à nos amis les Flamands. Guillaume Marin s'inclina profondément, tandis que Coppenole, avec sa mine bourrue, avait l'air d'un de ces ours dont parlait sa majesté. Le roi n'y prit pas garde. Il venait de tremper ses lèvres dans le hanap et recrachait le breuvage en disant « Pouah ! La fâcheuse tisane !» Celui qui lisait continua. Pour nourriture d'un maraud piéton enverrouillé depuis 6 mois dans la logette de l'écorcherie, en attendant qu'on sache qu'en faire, 6 livres 4 sols. « Qu'est-ce là ? » interrompit le roi. « Nourrir ce qu'il faut pendre ? Parce que Dieu, je ne donnerai plus un sol pour cette nourriture. Olivier, entendez-vous de la chose avec monsieur d'Estouteville ? Et dès ce soir, faites-moi le préparatif des noces du galant avec une potence. Reprenez. » Olivier fit une marque avec le pouce à l'article du maraud piéton et passa outre. À Henriet Cousin, maître exécuteur des hautes œuvres de la justice de Paris, la somme de 60 sols parisis, à lui taxée et ordonnée par Monseigneur le prévôt de Paris, pour avoir acheté, de l'ordonnance de mondit seigneur le prévôt, une grande épée à feuilles servant à exécuter et décapiter les personnes qui par justice sont condamnées pour leur démérite, et Issel fait garnir de fourreaux et de tout ce qui y appartient, et pareillement a fait remettre à point et rhabiller la vieille épée qui s'était éclatée et ébréchée en faisant la justice de messire Louis de Luxembourg, comme plus à plein peut à paroire. Le roi interrompit. Il suffit. J'ordonnance la somme de grand cœur. Voilà des dépenses où je ne regarde pas. Je n'ai jamais regretté cet argent-là. Suivez. Pour avoir fait de neuf une grande cage. Ah ! Dit le roi en prenant de ses deux mains les bras de sa chaise, je savais bien que j'étais venu en cette Bastille pour quelque chose. Attendez, maître Olivier, je veux voir moi-même la cage. Vous m'en lirez le coup pendant que je l'examinerai. Messieurs les Flamands, venez voir cela. C'est curieux. » Alors il se leva, s'appuya sur le bras de son interlocuteur, fit signe à l'espèce de muet qui se tenait debout devant la porte de le précéder, aux deux Flamands de le suivre, et sortit de la chambre. La royale compagnie se recruta à la porte du retrait, d'hommes d'armes tout alourdis de fer, et de minces pages qui portaient des flambeaux. Elle chemina quelque temps dans l'intérieur du sombre donjon, percé d'escaliers et de corridors jusqu'à dans l'épaisseur des murailles. Le capitaine de la Bastille marchait en tête et faisait ouvrir les guichets devant le vieux roi malade et voûté, qui toussait en marchant. À chaque guichet, toutes les têtes étaient obligées de se baisser, excepté celle du vieillard plié par l'âge. « disait-il entre ses gencives, car il n'avait plus de dents, « nous sommes déjà tout prêts pour la porte du sépulcre, à porte basse, passant courbé. » Enfin, après avoir franchi un dernier guichet si embarrassé de serrure qu'on mit un quart d'heure à l'ouvrir, ils entrèrent dans une haute et vaste salle en ogive, au centre de laquelle on distinguait, à la lueur des torches, un gros cube massif de maçonnerie, de fer et de bois. L'intérieur était creux. C'était une de ces fameuses cages à prisonniers d'État qu'on appelait les « fillettes du roi ». Il y avait aux parois 2 ou 3 petites fenêtres, si drûment treillissées d'épais barreaux de fer qu'on n'en voyait pas la vitre. La porte était une grande dalle de pierre plate, comme au tombeau, de ces portes qui ne servent jamais que pour entrer. Seulement, ici, le mort était un vivant. Le roi se mit à marcher lentement autour du petit édifice en l'examinant avec soin, tandis que maître Olivier, qui le suivait, lisait tout haut le mémoire. Pour avoir fait de neuf une grande cage de bois de grosses solives, membrures et sablières, contenant 9 pieds de long sur 8 de lé et de hauteur 7 pieds entre 2 planchers, lissés et boujonnés à gros boujons de fer, laquelle a été assise en une chambre étant à l'une des tours de la bastide Saint-Antoine, en laquelle cage est mise et détenue, par commandement du roi notre Seigneur, un prisonnier qui habitait précédemment une vieille cage caduque et décrépite. Ont été employés à cette dite cage neuve 96 solives de couche et 52 solives debout, 10 sablières de 3 toises de long, et ont été occupés 19 charpentiers pour écarrir, ouvrer et tailler tout le dit bois en la cour de la Bastille pendant 20 jours. D'assez beaux cœurs de chêne, dit le roi en cognant du poing la charpente. Il est entré dans cette cage, poursuivit l'autre, 220 gros boujons de fer, de 9 pieds et de 8, le surplus de moyenne longueur, avec les rouelles, pommelles et contrebandes servant aux 10 boujons, pesant tout le dit fer 3735 livres. Outre 8 grosses équières de fer servant à attacher la dite cage, avec les crampons et clous pesant ensemble 218 livres de fer, sans compter le fer des treillis des fenêtres de la chambre où la cage a été posée, les barres de fer de la porte de la chambre et autre chose. « Voilà bien du fer, dit le roi, pour contenir la légèreté d'un esprit. » Le tout revient à 317 livres 5 sols 7 deniers. « Pasque Dieu !» s'écria le roi. À ce juron, qui était le favori de Louis XI, il parut que quelqu'un se réveillait dans l'intérieur de la cage. On entendit des chaînes qui en écorchaient le plancher avec bruit, et il s'éleva une voix faible qui semblait sortir de la tombe. « Sire, sire, grâce !» On ne pouvait voir celui qui parlait ainsi. « 317 livres 5 sols 7 deniers, reprit Louis XI. La voix lamentable qui était sortie de la cage avait glacé tous les assistants, maître Olivier lui-même. Le roi seul avait l'air de ne pas l'avoir entendu. Sur son ordre, maître Olivier reprit sa lecture, et sa majesté continua froidement l'inspection de la cage. Outre cela, il a été payé à un maçon qui a fait les trous pour poser les grilles des fenêtres et le plancher de la chambre où est la cage, parce que le plancher n'eût pu porter cette cage à cause de sa pesanteur, 27 livres 14 sols parisis. La voix recommença à gémir.
« Grâce, sire! Je vous jure que c'est monsieur le cardinal d'Angers qui a fait la trahison, et non pas moi. »
Le maçon est rude, dit le roi. Continue, Olivier. Olivier continua. Un menuisier pour fenêtre, couche, selle percée et autre chose, 20 livres 2 sols parisis. La voix continuait aussi.
Hélas, sire, ne m'écouterez-vous pas? Je vous proteste que ce n'est pas moi qui ai écrit la chose à monseigneur de Guyenne, mais monsieur le cardinal l'a balu.
Le menuisier est cher, observa le roi.
Est-ce tout?
Non, sire, à un vitrier pour les vitres de ladite chambre. 46 sols 8 deniers parisis.
Faites grâce, sire, n'est-ce donc pas assez qu'on ait donné tous mes biens à mes juges, ma vaisselle à monsieur de Torcy, ma librairie à maître Pierre d'Auriol, ma tapisserie au gouverneur de Roussillon. Je suis innocent. Voilà 14 ans que je grelotte dans une cage de fer. Faites grâce, sire. Vous retrouverez cela dans le ciel.
Maître Olivier, dit le roi, le total. 367 livres 8 sols 3 deniers parisis.
Notre-Dame ! Cria le roi.
Voilà une cage outrageuse. Il arracha le cahier des mains du maître Olivier et se mit à compter lui-même sur ses doigts en examinant tour à tour le papier et la cage. Cependant, on entendait sangloter le prisonnier. Cela était lugubre dans l'ombre et les visages se regardaient en pâlissant.
14 ans, sire, voilà 14 ans, depuis le mois d'avril 1469. Au nom de la Sainte Mère de Dieu, sire, écoutez-moi. Vous avez joui tout ce temps de la chaleur du soleil. Moi, chétif, ne verrai-je plus jamais le jour? Grâce, sire, soyez miséricordieux. La clémence est une belle vertu royale qui rompt les courants de la colère. Croit-elle, votre majesté, que ce soit à l'heure de la mort un grand contentement pour un roi de n'avoir laissé aucune offense impunie? D'ailleurs, sire, je n'ai point trahi votre majesté. C'est monsieur d'Angers. J'ai au pied une bien lourde chaîne et une grosse boule de fer au bout, beaucoup plus pesante qu'il n'est de raison. Et sire, ayez pitié de moi.
Olivier, dit le roi en hochant la tête, je remarque qu'on me compte le muid de plâtre à 20 sols, qui n'en vaut que 12. Vous referez ce mémoire. Il tourna le dos à la cage et se mit en devoir de sortir de la chambre. Le misérable prisonnier, à l'éloignement des flambeaux et du bruit, jugea que le roi s'en allait.
« Sire, sire » cria-t-il avec désespoir.
La porte se referma. Il ne vit plus rien. Il n'entendit plus que la voix rauque du guichetier qui lui chantait aux oreilles la chanson « Maître Jean Balue a perdu la vue de ses évêchés. Monsieur de Verdun n'en a plus pas un, tous sont dépêchés. » Le roi remontait en silence à son retrait, et son cortège le suivait, terrifié des derniers gémissements du condamné. Tout à coup, Sa Majesté se tourna vers le gouverneur de la Bastille. « À propos, dit-elle, n'y avait-il pas quelqu'un dans cette cage? »« Par Dieu, sire, répondit le gouverneur stupéfait de la question. « Et qui donc? » ?»« Monsieur l'évêque de Verdun. » Le roi savait cela mieux que personne, mais c'était une manie. « Ah !» dit-il avec l'air naïf d'y songer pour la première fois, « Guillaume de Harancourt, l'ami de monsieur le cardinal La Balue, un bon diable d'évêque. » Au bout de quelques instants, la porte du retrait s'était rouverte, puis reclose sur les 5 personnages que le lecteur y a vus au commencement de ce chapitre, et qui avaient repris leur place, leur causerie à demi-voix et leurs attitudes. Pendant l'absence du roi, on avait déposé sur sa table quelques dépêches, dont il rompit lui-même le cachet. Puis il se mit à les lire promptement l'un après l'autre, fit signe à Maître Olivier, qui paraissait avoir près de lui office de ministre, de prendre une plume et, sans lui faire part au contenu des dépêches, commença à lui en dicter à voix basse les réponses, que celui-ci écrivait, assez incommodément agenouillé devant la table. Guillaume Rym observait. Le roi parlait si bas que les flamands n'entendaient rien de sa dictée, si ce n'est ça et là quelques lambeaux isolés et peu intelligibles comme « maintenir les lieux fertiles par le commerce, les stériles par les manufactures, faire voir aux seigneurs anglais nos 4 bombardes, la Londres, la Brabant, la Bourg-en-Bresse, la Saint-Omer, l'artillerie et cause que la guerre se fait maintenant plus judicieusement, à monsieur de Bressuire, notre ami, les armées ne s'entretiennent sans les tribus, etc. » Une fois, il haussa la voix. « Parce que Dieu, monsieur le roi de Sicile, scelle ses lettres sur cire jaune comme un roi de France. Nous avons peut-être tort de lui permettre. Mon beau cousin de Bourgogne ne donnait pas d'armoirie à champ de gueule. La grandeur des maisons s'assure en l'intégrité des prérogatives. Note ceci, compère Olivier. » Une autre fois, « Oh, dit-il, le gros message, que nous réclame notre frère l'empereur ?» Et, parcourant des yeux la missive en coupant sa lecture d'interjection, « Certes, les Allemagnes sont si grandes et puissantes qu'il est à peine croyable, mais nous n'oublions pas le vieux proverbe, la plus belle comté est Flandre, la plus belle duché Milan, le plus beau royaume France. N'est-ce pas, messieurs les Flamands ?» Cette fois, Coppenole s'inclina avec Guillaume Rym. Le patriotisme du chaussetier était chatouillé. Une dernière dépêche fit froncer le sourcil à Louis XI. « Qu'est-ce là ? » s'écria-t-il. « Des plaintes et quérimonies contre nos garnisons de Picardie ? Olivier, écrivez en diligence à monsieur le maréchal de Rouault. Que les disciplines se relâchent. que les gendarmes des ordonnances, les nobles de ban, les francs archers, les Suisses font des maux infinis aux manants. Que l'homme de guerre, ne se contentant pas des biens qu'il trouve à la maison des laboureurs, les contraint à grands coups de bâton ou de vougle, à aller quérir du vin à la ville, du poisson, des épiceries et autres choses excessives. Que M. le roi cesse là. Que nous entendons garder notre peuple des inconvénients, larcins et pilleries. Que c'est notre volonté par Notre-Dame. Qu'en outre, il ne nous agrée pas qu'aucun menetrier, barbier ou valet de guerre soit vêtu comme prince, de velours, de draps de soie et d'anneaux d'or, que ces vanités sont haineuses à Dieu. Que nous nous contentons, nous qui sommes gentilshommes, d'un pourpoint de drap à 16 sols l'aune de Paris. Que messieurs les goujats peuvent bien se rabaisser jusqu'à là, eux aussi. Mandez et ordonnez. À monsieur de Rouault, notre ami. Bien. Il dicta cette lettre à haute voix, d'un ton ferme et par saccades. Au moment où il achevait, la porte s'ouvrit et donna passage à un nouveau personnage, qui se précipita tout effaré dans la chambre en criant « Sire, sire, il y a une sédition de populaire dans Paris. » La grave figure de Louis XI se contracta, mais ce qu'il y eut de visible dans son émotion passa comme un éclair. Il se contint et dit avec une sévérité tranquille « Compère Jacques, vous entrez bien brusquement. »« Sire, sire, il y a une révolte, » reprit le compère Jacques essoufflé. Le roi, qui s'était levé, lui prit rudement le bras et lui dit à l'oreille, de façon à être entendu de lui seul, avec une colère concentrée et un grand regard oblique sur les flamands, « Tais-toi, on parle bas. » Le nouveau venu comprit et se mit à lui faire tout bas une narration très effarouchée que le roi écoutait avec calme, tandis que Guillaume Rhin faisait remarquer à Coppenole le visage et l'habit du nouveau venu, sa capuce fourrée, capucia furata, son épitoge courte, epitogia curta, sa robe de velours noir, qui annonçait un président de la cour des comptes. À peine ce personnage eut-il donné au roi quelques explications, que Louis XI s'écria en éclatant de rire. « En vérité, parlez tout haut, compère, coictier. Qu'avez-vous à parler bas ainsi? Notre-Dame sait que nous n'avons rien de caché pour nos bons amis flamands. Mais, sire, parlez tout haut. » Le compère coictier demeura muet de surprise. « Donc, reprit le roi, parlez, monsieur, il y a une émotion de manant dans notre bonne ville de Paris ?»« Oui, sire. » »« Et qui se dirige, dites-vous, contre monsieur le bailli du palais de justice ?»« Il y a apparence, répondit le compère, qui balbutiait, encore tout étourdi du brusque et inexplicable changement qui venait de s'opérer dans les pensées du roi. » Louis XI reprit. Où le guet a-t-il rencontré la cohue? Cheminant de la grande truanderie vers le pont aux changeurs. Je l'ai rencontré moi-même comme je venais ici pour obéir aux ordres de votre majesté. J'en ai entendu quelques-uns qui criaient « Abat le bailli du palais !» Et quels griefs ont-ils contre le bailli? « Ah, dit le compère Jacques, qu'il est leur seigneur !»« Vraiment ?»« Oui, sire, ce sont des marauds de la cour des miracles. Voilà longtemps déjà qu'ils se plaignent du bailli, dont ils sont vassaux. Ils ne veulent le reconnaître ni comme justicier, ni comme voyer. Oui, là, repartit le roi avec un sourire de satisfaction qu'il s'efforçait en vain de déguiser. Dans toutes leurs requêtes au Parlement, reprit le compère Jacques, ils prétendent n'avoir que deux maîtres, votre majesté et leur Dieu, qui est, je crois, le diable. Eh, dit le roi. Il se frottait les mains. Il riait de ce rire intérieur qui fait rayonner le visage. Il ne pouvait dissimuler sa joie, quoiqu'il essayât par instant de se composer. Personne n'y comprenait rien, pas même Maître Olivier. Il resta un moment silencieux, avec un air pensif, mais content. « Sont-ils en force ? » demanda-t-il tout à coup. « Oui, certes, sire, » répondit le compère Jacques. « Combien ? » ?»« Au moins 6 000. » Le roi ne put s'empêcher de dire « Bon !» Il reprit. Sont-ils armés? Des faux, des piques, des hacquebutes, des pioches, toutes sortes d'armes fort violentes. Le roi ne parut nullement inquiet de cet étalage. Le compère Jacques crut devoir ajouter. Si votre majesté n'envoie pas promptement au secours du bailli, il est perdu. Nous enverrons, dit le roi avec un faux air sérieux. C'est bon. Certainement, nous enverrons. Monsieur le bailli est notre ami.
6 000, ce sont de déterminés drôles.
La hardiesse est merveilleuse, et nous en sommes fort courroucés. Mais nous avons peu de monde cette nuit autour de nous. Il sera temps demain matin. Le compère Jacques se récriait. Tout de suite, sire. Le bailliage aura 20 fois le temps d'être saccagé, la seigneurie violée et le bailli pendu. Pour Dieu, sire, envoyez avant demain matin. Le roi le regarda en face. « Je vous ai dit demain matin. » C'était un de ces regards auxquels on ne réplique pas.
Fin de la partie A du chapitre 5 du livre 10.